Bonjour tout le monde, Spectaculaire commence aujourd'hui, mercredi, le combien sommes-nous? C'est l'appel du 18 juin numéro 2014, émission numéro 37, Christophe Rollin au micro, Gérald est présent ainsi que Jess, notre invité. Je crois que voilà, nous aurons fait en cette fin de saison 2013-14, nous aurons fait le tour de nos sommités après François Bégodeau et Pierre Maillet. Voici Jess, enfin il est présent parmi nous pour parler plutôt d'art, le théâtre, on a déjà beaucoup parlé. Et nous allons faire une pause. Gérald fera également un compte-rendu sur l'opéra, peut-être un petit compte-rendu sur l'opéra Simone Boccanegra qui est donné à l'Opéra de Lyon. Je ne sais plus encore combien de dates il en reste quelques-unes. Et voilà, vous êtes bien, vous êtes très bien installés sur Radio Canu. Vous pouvez nous écouter à Lyon, le 102.2 de la Grande FM, ou bien vous pouvez également nous écouter sur internet, radiocanu.org. Nous allons commencer avec une belle chanson, c'est Lotte Lenya qui va chanter dans Die Dreigroschen Oper, l'opéra de Katsu, de Kurt Weill, la musique, Bertolt Brecht, le texte. Nous allons écouter, vous allez voir, c'est Lotte Lenya qui chante, et puis voilà, l'émission dure jusqu'à 15h comme d'habitude. Et je crois que c'est à peu près tout. Je me calme et nous écoutons un peu de musique et nous reprenons l'interview. Nous commençons l'interview avec Jess et Gérald.
Goodbye. We've lost our way.
C'est comme cela que ça se termine. Nous écoutions Lotte Lenya qui nous parlait, qui chantait Show me the way to the next whiskey bar. Ça a été repris par les Doors et nous sommes bien, je n'ai pas donné l'heure alors que Gérald généralement m'en fait le reproche. Il est 14h et combien 4 minutes, nous sommes bien le mercredi 18, 14h 4 minutes. Vous êtes très bien sur Radio Canus, l'émission spectaculaire. Ai-je nommé l'émission, zut, j'ai peut-être oublié, mais ce n'est pas très grave, ce n'est pas le titre de l'émission qui prime, c'est plutôt le nom de l'invité. Bonjour Jess.
Bonjour.
Ah voilà, nous sommes très courtois.
Bonjour,
aujourd'hui.
Chers auditeurs.
Bonjour Gérald. Pourquoi écoutions-nous donc Lotte Lenya?
Parce qu'il y a forcément un lien.
Ah ben, c'est comme toujours.
Avec le travail artistique de notre invité. Et on a d'ailleurs aujourd'hui choisi de programmer ensemble la musique. Donc nous écoutions effectivement Lotte Lenya et And the Three Admirals, la chanson Alabama Song. Avec Theo McKibben et son orchestre de jazz, un enregistrement du 24 novembre 1930. Un disque que d'ailleurs j'avais trouvé il y a des années, une exposition sur la nouvelle objectivité.
Je l'ai moi aussi, cet album.
Voilà, Telefunken à Grenoble.
Et donc les paroles, indiquez-moi l'endroit, le chemin le plus proche pour le prochain bar c'est ça, le bar à whisky. Oui, c'est thématique, c'est lié à jazz, c'est ça, bar à whisky.
C'est l'ambiance cabaret plutôt.
Ambiance cabaret.
C'est plutôt le cabaret que le whisky. Ouais.
Bon. Jess.
Donc Ardevon Jess.
Comment?
J'ai découvert son travail à la mairie du premier. Parlez. Il a exposé il y a 2 ans, je crois.
Voilà, juste à 2 pas d'ici.
Une très très belle exposition et j'étais épaté par son travail. Et très récemment, jusqu'au 7 juin, il y a une exposition à la galerie d'Étinger, place Gailleton. Encore une très belle exposition. Malheureusement, elle s'est terminée, mais ça n'empêche pas d'aller voir le travail. Et puis il y en aura d'autres des expositions.
Il y en aura d'autres, oui, l'an prochain.
Voilà. Donc Ardevon Jess peut-être va se présenter.
Donc nous parlons d'un artiste plasticien, c'est comme cela qu'on peut le nommer. Je vous en prie, déclinez donc votre identité. Alors on a le pseudonyme Jess, on a également le patronyme Ardevon.
Ardevon, c'est le nom d'un petit village breton aussi, voilà.
C'est breton.
Un souvenir de.
Ah, c'est curieux, les terminaisons bretonnes.
C'est donc un pseudo.
C'est un pseudo, oui, oui.
Ce n'est pas en hec, les terminaisons bretonnes. Carvadec, Gourvenec, Caradec, Wedec.
Eh ben non, il y a du Venn aussi.
Il y a du Venn également. Bon. Et alors, un artiste plasticien depuis la toute petite enfance où, on va arrêter, Gérald, les bulletins scolaires, très bien. Commençons plutôt,
commençons plus tard.
Les études ou, je ne sais, une fac, les beaux-arts un peu, non.
Bac, et voilà, et après, je suis autodidacte. J'ai fait, non, quand même des cours de style. Parce que j'ai travaillé dans le spectacle auparavant, pendant une quinzaine, vingtaine d'années. Et voilà, et après je me suis remis au dessin, qui était ma première passion, quand je suis arrivé à Lyon. Voilà, environ 10 ans, un peu plus de 10 ans.
Donc les premières années, t'étais en Bretagne, c'est ça, vers Rennes? Oui.
Non, pas du tout.
Saint-Lô,
Saint-Brieuc. J'étais à Paris, je travaillais à Paris.
Nullement la Bretagne.
Non, c'est le nom, mais
c'est le patronyme, c'est le pseudonyme.
Donc des spectacles de danse, de théâtre?
Oui, beaucoup. J'ai travaillé pendant longtemps pour la danse contemporaine, voilà, avec Santiago Sempere, avec Philippe Jamet, beaucoup, avec... voilà, une fois avec Nasser Martin Gousset, avec voilà, des gens comme
ça. Ah, j'aime bien le name dropping, ce sont quelques noms qui ont une petite notoriété quand même.
Voilà, oui. voilà. Et puis voilà, au théâtre aussi.
Comme voilà. En tant que costumier.
Oui, après j'ai travaillé au théâtre surtout avec Véronique Vidocq, qui est une femme qui a un théâtre aussi à Colombes. Voilà, et dont le travail était très intéressant pour moi. Moi j'ai surtout suivi des gens, des artistes en fait, des gens dont j'aimais le travail. C'était pas... Voilà.
Et... Mince, il va être assez peu loquace, peu disert, le Jess, il va falloir le cuisiner, Gérald, bon.
Cuisiner, ouais. Alors quel type de costume?
Quel type,
des spectacles marquants?
Moi je faisais beaucoup ce qu'on appelle du costume contemporain, alors ça n'empêche pas que dedans il y a des moments de délire, il y a des moments de costume baroque, de costume trash, un peu de tout, quoi. J'ai fait un peu de tout. Je ne peux pas dire plus que ça sur le costume. En plus, j'ai arrêté il y a quelques années, donc pour moi, c'est une histoire ancienne. Mais par contre, c'est lié à mon travail d'aujourd'hui quand même, mon travail de dessinateur. Parce que le fait d'avoir travaillé pendant tout ce temps dans le spectacle, ça m'a permis beaucoup de rencontrer beaucoup d'artistes, de voir des corps en mouvement beaucoup quand je travaillais dans la danse. Et mon travail, il est beaucoup sur le corps. Donc, voilà.
je pense à un nom comme cela, Philippe Découfflé, pour ce qui est justement de costumes peut-être très...
contemporain très, et délirant.
Ah oui,
très, très
super,
délirant.
J'adore donc, Découfflé. Hein.
Oui, c'est
malheureusement,
également.
J'ai pas travaillé avec lui.
Non.
C'était Jean-Paul Gaultier surtout qui travaillait avec lui.
Non, il a un costumier. Il a un costumier qui travaille avec lui depuis le début, Philippe Découfflé.
Ouais.
Mais alors, très bien. Abordons donc la question. Enfin, vraiment, pour un chorégraphe, le costumier est essentiel et ça peut être très bien d'établir un partenariat, une vraie relation.
Dans tous les spectacles, ça c'est sûr que c'est important le compagnonnage avec les gens avec lesquels on travaille. Moi je suis resté plus de 10 ans avec Philippe Jamet, 10 ans avec Véronique Vidocq, voilà, en travaillant parallèlement avec d'autres gens, ponctuellement sur d'autres spectacles pour voir d'autres univers. Mais sinon, oui, c'est avant tout des correspondances artistiques, sinon c'est pas très intéressant.
Oui.
Sinon, surtout le costume, sinon on peut faire du Mickey ou je sais pas quoi, mais bon.
Alors pourquoi cette aventure de costumier dans le spectacle vivant s'est arrêtée en deux mots ou...
Ça s'est arrêté parce que je suis venu vivre ici à Lyon et que donc je me suis dit que c'était l'occasion de changer de vie de façon plus radicale et que j'ai toujours voulu en fait faire du dessin, faire un travail artistique personnel. Et c'était le moment pour moi quoi, d'attaquer ça. Donc j'ai pris un atelier, j'ai commencé à redessiner, à travailler beaucoup et voilà. Et donc après, j'ai eu cette première expo en 2009 à la MAPRA, à la Maison des Artistes. Voilà.
Donc 2009 MAPRA, 2011 Mairie
2011,
du Premier.
2011 Mairie du Premier, c'est ça. Après, il y a eu la Galerie d'Étinger. Et à nouveau, là, cette année, la Galerie d'Étinger.
C'était la deuxième fois, la Galerie d'Étinger.
C'était deuxième fois partout, en fait.
D'accord.
J'ai pas les dates en tête,
mais
j'ai fait deux fois la Mairie du Premier et deux fois la Galerie d'Étinger.
D'accord.
Voilà, une fois la MAPRA. Donc on peut dire que ça a été vite d'une certaine façon, mais...
Mm-hmm. Les lieux d'expo ne manquent pas à Lyon, c'est une chance.
Oui. Et pour revenir peut-être encore un mot, voire le dernier mot, donc sur cette aventure de, enfin cette profession, voilà, cette longue activité de costumier. Je ne sais pas comment cela se passait-il éventuellement au quotidien, ou alors le travail en amont était-il très important, ou est-ce qu'il y avait encore des ultimes retouches lors des essais encore lorsque les spectacles commençaient? Est-ce qu'il y a eu des tournées?
Il y a une date qui s'appelle la couturière qui est fait exprès, c'est avant la générale, on vérifie justement bon, que le spectacle roule, les lumières et tout ça, et précisément les costumes. Voir si tout marche et tout. On appelle ça une couturière, ça ne se fait plus beaucoup aujourd'hui parce qu'on fait des filages, on fait beaucoup de filages habillés quand même.
Qu'il n'y ait pas de couture qui craque, que ce
voilà.
Que soit pas trop serré
malgré
pour
tout,
entraver
ça arrive,
les mouvements.
Surtout en danse.
Les danseurs, oui, entraver les mouvements.
Oui, ça arrive.
Et donc 2014, cela fait 5 ans que votre activité de costumier
est
terminée.
Voilà, c'est arrêté complètement. Oui, j'ai décidé d'arrêter parce que c'était compliqué de mener les deux de front.
Mmh.
En fait, le spectacle, ça requiert entièrement, enfin son temps complètement. Quoi. On ne peut pas faire
tout. C'est vrai, il faut choisir pour développer, approfondir certains domaines. J'en profite pour rappeler... Et parler à nos chers auditeurs. J'ai fait la découverte il y a quelques mois, c'était les dernières vacances, d'un musée qui est passionnant et qui est pas très loin d'ici, à 2 heures de Lyon, le musée de Moulins, le musée du costume de scène et de la scénographie.
Dans l'Allier.
À 2 heures de Lyon, dans l'Allier, donc Moulins, capitale de l'Allier. Et un des anciens bâtiments qui ressemble beaucoup à ceux des subsistances à Lyon, bâtiment militaire, très classique, très beau, avec un escalier magnifique. Et c'est le seul musée de France qui archive, collectionne, entretient, conserve tous les costumes de scène, de spectacles vivants, danse, mais aussi théâtre, mais aussi cinéma parfois. Et je vous invite à aller voir... à vous précipiter, voir l'exposition actuelle qui s'appelle Plein Feu sur les collections du Centre National du Costume de Scène qui bientôt va s'élargir parce qu'il reste une aile à organiser pour aussi intégrer la machinerie du spectacle et la scénographie, toutes les machineries de scène. C'est très intéressant. Le bâtiment a été refait en partie par Villemotte. J'ai pas trouvé que c'était une grande réussite, l'architecte Villemotte. Mais les collections, donc c'est les 6 expositions qui retracent tout ce qui a été fait. Le président d'honneur crie sur la croix, il y a une brasserie à côté, on mange pas mal. Et vous avez un numéro de connaissance des arts hors série qui est intéressant, qui brasse toutes les expositions qui ont lieu depuis 2006.
Vous pouvez rappeler aussi qu'au musée du costume en ce moment, à Lyon, il y a les costumes de scène, costumes d'opéra et tout ça.
Au musée des tissus ?
Ouais.
Ah oui, on a aussi un beau musée à Lyon, au musée des tissus.
Alors que ce soit donc ce musée lyonnais ou bien le musée moulinois, y a-t-il des, je ne sais pas comment nommer cela, des productions, y a-t-il des costumes que vous, Jess, vous ayez fait?
Non, il
n'y a
pas.
Non, ça n'est pas, ça ne se trouve pas là.
Et il y a aussi la collection Nureyev. Le danseur Nureyev a fait don de sa collection qui est assez intéressante. Il y a une vidéo.
Toujours à Moulins, oui.
À Moulins.
Toujours à Moulins.
Au rez-de-chaussée, vous entrez, ça commence par la collection Nureyev avec ses collections d'œuvres d'art. Une vidéo qui retrace son portrait, qui est intéressant. Tous les spectacles qui ont été faits.
Ah, c'était un danseur magnifique.
Oui, oui, oui.
Mais alors, justement, ces costumes que vous avez cousus de vos grandes mains, de vos beaux doigts, je les vois manipuler un fil de casque. Nullement nécessaire à Radio Canut de porter des casques, donc oui, de belles mains. Eh bien, ces costumes, que sont-ils devenus? Est-ce que vous en avez conservé quelques-uns? Des photos peut-être, des clichés?
Les compagnies, elles gardent.
Elles les gardent un peu.
Elles gardent les costumes. Déjà, le temps, quelques années, le temps de. Parce que si le spectacle est remonté, s'il est racheté, des fois, ça peut durer sur 2-3 ans, ça. Des fois plus. Donc, c'est les compagnies qui gardent. En principe, c'est normal. Elles achètent, elles payent. Donc, elles gardent.
Voilà. Je crois que là, nous avons tout dit pour ce qu'il était des costumes. On va peut-être en rester là. Pourquoi faire ce temps de parole? Parce qu'il me semblait assez bien de structurer un peu les choses. Donc, en gros, ce serait le passé de Jess. Voici ce que Jess était par le passé. Maintenant, c'est un nouveau Jess dont nous allons parler. On fait une deuxième pause musicale, Gérald.
Pour aller chez nos auditeurs, on nous parlera du travail plastique et de la dernière exposition qui s'appelait Théâtre des illusions comiques et autres fatigues burlesques.
Et est-ce que nous pourrions peut-être en mettre quelques images sur le blog, est-ce que ce sera possible?
Oui, bien sûr.
Alors on mettra cela. Pour l'instant, écoutons un album, comment s'appelle-t-il, numéro 4, c'est ça? Donc je suppose que c'est le quatrième album de Serge Gainsbourg. Ce grand méchant vous, il y a encore une raison, Gérald? Oui,
il y avait un lien avec un tableau qui a été montré à la galerie d'Ettinger qui s'appelait Loup. Et on verra tout à l'heure, mais Jess a accompagné chacun de ses productions par des courts textes poétiques. Et on va pouvoir le cuisiner là-dessus. Voilà. N'est-ce pas, Christophe?
Il va falloir effectivement faire cela. Tout d'abord, Serge Gainsbourg, et puis ensuite, nous reprenons.
Promenons-nous dans le mois, pendant que le vous n'y est pas. Car si le vous y était, sûrement il nous mangerait. J'ai peur du grand méchant vous. Ah, la vilaine bête que ce vous. Mais je ne sais comment j'arriverai à chasser pour toujours ce grand méchant vous de mes pensées. Promenons-nous dans le mois, pendant que le vous n'y est pas. Car si le vous y était, sûrement il nous mangerait. Je me suis mis dans la gueule du vous. Oh, quel enragé que ce vous. Combien de nuits ce grand méchant vous m'a sauté à la gorge comme j'allais le caresser. Promenons-nous dans le mois, pendant que le vous n'y est pas. Car si le vous y était, sûrement il nous mangerait. Je ne sais hurler avec le vous. Ah, quel animal que ce vous. Mais comment savoir dans cette rivalité qui de l'homme ou du vous l'emporte en cruauté. Promenons-nous dans le mois, pendant que le vous n'y est pas. Car si le vous y était, sûrement il nous mangerait. Promenons-nous dans le mois, pendant que le vous n'y est pas. Promenons-nous dans le mois, pendant que le vous.
Pendant que le vous n'y est pas, un jeu de mots gainsbourgien, c'est cela. Promenons-nous dans le mois pendant que le vous n'y est pas. Ambiance encore cabaret. Non, ambiance plutôt jeu de mots cette fois-ci pour parler de ces textes, les courts textes qui peuvent accompagner certaines des œuvres de jazz. Et là, nous parlons très précisément de l'exposition qui s'est donc achevée. Nous sommes le 18 aujourd'hui, donc c'était il y a 11 jours sur la place Gailleton, cette galerie.
La galerie d'Ettinger Meyer. Très bonne galerie qui présente habituellement. Galerie, ouais. Il y a
beaucoup de dessins, beaucoup de graphismes de dessins, ouais. Et tout ça. Et ouais. Parallèlement, une collection d'art africain.
Voilà.
De fétiches surtout. C'est ça.
Souvent du Bénin.
Bénin, Togo.
Ouais, voilà. L'air fond. Voilà.
C'est une très belle galerie. C'est une galerie qui a une vingtaine d'années maintenant.
Oui,
Alain Détinger, c'est un personnage.
La pignon sur rue d'ailleurs, quoi. Qui expose souvent des belles choses.
Oui, absolument.
Et donc, parmi ces belles choses, il y avait Jess, au tout début du mois de juin, Jess Erdeven, notre invité, qui se qualifie lui-même. Donc, tout à l'heure, j'ai lancé ce terme. Était-ce une offense ou une insulte? Non, nullement. Je n'espère pas que ça ait été pris comme ça. Non, il n'est, enfin, plasticien, certes, mais le terme est très général. Plutôt dessinateur.
Voilà, dessinateur, oui, c'est ça.
Dessinateur.
Ça me plaît bien, dessinateur.
Nous disons justement hors antenne, nullement illustrateur et pas non plus bande dessinée.
Pas du tout.
Non.
C'est un travail très.
Un artiste.
Très étrange, très singulier justement. C'est peut-être pour ça que Détinger l'expose d'ailleurs aussi. Moi j'ai le carton de l'invitation sous les yeux. Théâtre des illusions comiques et autres fatigues burlesques.
C'était donc,
un titre
de l'exposition. Oui.
Il y avait beaucoup de grands formats, ce qui est impressionnant. Bon, la technique, il faut en parler tout de suite, comme ça évitera d'ergoter beaucoup là-dessus, puisque c'est du stylo-bille.
Ça c'est rare.
Et du stylo-bille, on va dire.
Ça se fait maintenant de plus en plus.
Bic, stylo-bic.
Ouais, il y a du Bic, du Reynolds. Et voilà.
Bon, des grandes marques de stylo à 2 euros.
Voilà, de stylo qu'on trouve dans le commerce.
Mais attention, je crois que même, il y en a quand même plusieurs types des stylos bic.
Oui, il y en a plusieurs types. Moi j'utilise des bics, donc pour ce qui est du noir et les pointes très fines.
Les pointes fines et les pointes un peu plus.
Voilà. Et puis d'autres, c'est les Reynolds pour la couleur en fait. La couleur, ils ont une très belle gamme de couleurs. Voilà.
Et alors, quelles sont les couleurs donc
Tu peux trouver toutes les couleurs. Mon grand drame, mais en même temps, ça peut être une chance, c'est qu'il n'y a pas de jaune. Voilà. En feutre, il y a du jaune, mais pas en stylo bille, vraiment.
D'accord.
Donc j'ai une couleur en moins en fait sur le spectre.
Qui est remplacé par quoi alors?
Donc par une ruse. Oh. Ouais, l'orange bordé de bleu, ce qui fait que ça redonne du
peps à l'orange.
Ouais, absolument.
Ça le jaune.
Ça le fait comme si c'était du jaune.
La loi des contrastes simultanés.
C'est la loi de voilà. De l'optique.
Oui, voilà, c'est ça.
Oui.
J'ai pu voir une exposition il n'y a pas trop longtemps à Montpellier, Paul Signac, et Signac a effectivement été assez proche, ou disons proche, c'est beaucoup intéressé aux travaux de Chevrolet. Hein. C'est une rue à Lyon.
Oui, il fait vibrer les couleurs entre elles, et en fait, tu peux déformer complètement à l'œil, d'un point de vue optique, des couleurs.
C'est le principe des impressionnistes, qu'on trouve chez Delacroix, puis depuis longtemps.
Oui,
il a été mis, rationalisé, mis sur papier avec Chevrolet. Fin du 19e, mais on a tous fait l'expérience, vous savez, ces illusions d'optique. Vous regardez un carré rouge pendant quelques secondes, ensuite vous le fixez, vous regardez un point et vous regardez un mur blanc et il va apparaître le carré de la couleur complémentaire sur le cercle chromatique, c'est ça le contraste.
Ça fait un vert.
Quelle couleur apparaîtrait
vert. Le vert qui s'oppose diamétralement opposé sur le cercle chromatique.
Est-ce que ce sont des connaissances que vous avez acquises? Vous parliez tout à l'heure, Jess, vous disiez être autodidacte. Est-ce que vous avez nourri de ces
lectures? Mais j'ai dû faire quand même quelques cours sur l'optique, sur la composition, sur les couleurs. Donc aussi tout ce qui concerne l'optique en fait. Enfin, la vision, justement, les couleurs, les complémentaires, le spectre, les couleurs additives et soustractives.
C'est très bien du vocabulaire technique, mais moi j'aurais peut-être une simple question.
C'est impressionnant parce que les gens s'arrêtent beaucoup à ça et bon, ça l'énerve un petit peu.
Pour terminer, le stylo bille, pourquoi ce stylo bille? Pourquoi pas
ce stylo bille? Avant tout, c'est pas tant le stylo bille parce que moi j'avais commencé il y a des années avec du crayon, de la mine de plomb en fait. Bah,
ça se fixe mal,
ça laisse du.
Un peu bavé.
Ce que j'aime, c'est dessiner en fait, c'est graffiter, dessiner. Et ce qu'il y avait de plus proche du crayon, en fait, c'est le stylo. Parce qu'il n'y a pas, je veux dire, c'est pas comme un retring où il faut tout le temps s'en occuper, mouiller, machin. Le stylo, on s'en sert immédiatement, on peut.
Quand il est fini, on le jette
pendant des kilomètres. On jette, quoique moi je les garde tous.
Ah,
mais,
c'est intéressant.
Ah oui.
Mais voilà.
On garde une
quoi.
Question de côté. Oui, mais et donc l'encre, non, alors justement, ça peut sécher aussi, c'est ça?
Voilà, enfin, ça sèche. Moi, je suis nerveux, en fait, donc j'ai besoin d'avoir ce rapport au mouvement, d'être tout le temps en mouvement. Voilà. Et le stylo, pour ça, c'est parfait, quoi. Ça sèche pas, c'est... Alors bon, il y a aussi d'autres soucis, mais bon, ils sont techniques, mais voilà.
Et pas le feutre non plus, les
feutres, et le feutre, non, ça sèche non, aussi, et puis également. C'est pas, le bruit, c'est désagréable.
Ah, feutre, le bruit est important. Est-ce que le stylo bille fait un bruit, finalement?
Il fait un petit bruit, mais ça va.
De petites
ça va
billes
bien.
Qui roulent.
C'est un petit bruit ami, maintenant, ça va bien. C'est comme le grillon, ou je sais pas quoi.
Bon, tu sais, c'est un obsessionnel un petit peu, hein, quand on voit le travail. Parce que c'est très difficile de parler d'images à la radio, même à la télé, mais à la radio c'est encore plus difficile. J'ai le carton donc sous les yeux. C'est du stylo bille, une palette donc souffle jaune, il y a beaucoup de couleurs différentes. Et ce qui est important de dire quand même, c'est que les formats parfois sont monumentaux.
Voilà, j'ai commencé par un format de base, c'est 110 par 75. Que je répète.
Alors, ce sont des grand aigle.
Ouais, voilà.
Ce sont des centimètres, mais quand oui. on dit 110, c'est un mètre, hein, c'est ça.
Voilà, un mètre 10. Quand même, 10 par 75 centimètres. Voilà. Bim. Ça fait déjà, ça c'est la base, et donc je le répète en fonction du dessin. Là, voilà, c'est... là c'est 4 dessins.
Donc
voilà,
imaginez, 4 fois 110, ça fait 4 mètres sur.
Voilà, sur 2. Sur,
sur 4 fois 75. Sur, donc on a des formats monumentaux. 150. Avec une technique qui est quand même, on va pas dire laborieuse ou lente, mais c'est vrai qu'on couvre, on couvre la surface, mais on la couvre, il faut du temps pour la couvrir.
Oui, c'est du temps.
Alors la question qui revient souvent, ou les remarques des spectateurs qui apprécient le travail, mais ils sont un peu fixés, ils font une fixation sur cette lenteur faire, et le temps de travail. Comme disait Charlie Lescouture dans une chanson, et vous avez travaillé beaucoup pour en arriver là. Alors ça c'est énervant, mais c'est, cette dimension temporelle, elle est importante.
Elle est hyper importante, mais même elle est importante pour moi, je j'aimerais pas que ça aille vite, moi. Enfin, je veux dire... C'est important que l'œuvre elle se construise dans le temps, que tout prenne du temps. Voilà, bah c'est lié à un peu à Proust aussi. Enfin, tout ce temps, le temps qui passe, la vie. Hein, voilà, c'est des moments humains. C'est pas un travail qu'on fait. C'est pas de l'artisanat. C'est autre chose. C'est du temps de vie.
Et nous évoquons Proust parce que nous parlions tout à l'heure des, je ne sais pas comment les appeler, ces textes, sous-textes, enfin du moins texte légende, accompagnement. Et oui, nous en citerons quelques-uns. Il faudrait même commencer à en citer tout de suite parce que nous parlons à l'instant de Proust. Et donc Proust intervient à travers les personnages, mais pas seulement les personnages, puisque vous dites, Jess, que ce sont les thématiques qui peuvent ce traitement du temps long. Quand on parle de l'œuvre de Proust, les 7 tomes, c'est ça, qui représentent des milliers de pages. Ouais. Voilà, là j'ai un passage qui n'évoque pas Proust, il n'y a pas de nom propre. Kimono de soie et guêpière, O est une guerrière, au creux de son sein pousse une fleur, Cattleya, son nom, sa couronne, son blason. Alors si, peut-être que O évoque Proust, puisque ça peut être Odette hein. Mais c'est plutôt le terme de Cattleya, qui est donc une fleur, et chez Proust même, faire Cattleya est une expression.
Voilà, c'est l'expression pour faire l'amour, pour faire
tout simplement.
Faire Cattleya, j'en apprends, je ne savais pas.
Cela apparaît encore Proust avec le personnage d'Albertine qui est carrément nommé, et puis il y a aussi différentes
Albertine dans le petit texte, chaque lettre fait disparu en fait. Voilà.
La série Each Man Kills the Thing He Loved, voilà. Ce serait du Shakespeare, non? D'où vient cette...
Non, alors ça c'est une référence à Fassbinder en fait, au film de Querelle de Brest, dans lequel Jeanne Moreau chante cette chanson. Each Man Kills the Thing He Loved.
Tout homme tue ce qu'il aime.
Ce qu'il aime.
La chose. Ou même
et
qu'il
puis
aime.
Ça va particulièrement bien avec aussi l'œuvre de Proust, parce que c'est un peu ça. Il tue sa vie en l'écrivant, il se tue lui-même en fait. Il se vide de de sa substance, il vide tout quoi, en l'écrivant.
Ce personnage du narrateur qui n'est jamais vraiment nommé comme étant Marcel Proust lui-même, parce que c'est toute cette grande idée.
Oui,
la recherche du temps perdu, est-ce lui, n'est-ce pas lui, c'est...
Voilà, mais lui-même, il écrit couché. Et il meurt.
Ah,
et, je veux dire, il se vide littéralement.
Des crises d'asthme, c'est ça?
Oui,
ou
absolument.
Il y a beaucoup de références littéraires, mais je t'ai précisé que cet art
les illusions
n'est
comiques,
pas littéraire au sens péjoratif du terme.
Ah oui, non, c'est
donc
pas
beaucoup de citations, mais ce n'est pas littéraire. Parfois, ça a été
littéraire. Nous allons l'écouter dans quelques instants. Nous allons écouter la chanson de Klaus Nomi, la Cold Song, qui est tirée d'un opéra, un opéra de Purcell. On vient d'évoquer à l'instant Fassbinder avec Querelle de Brest. On parle de Proust, on parle de différentes choses. Ça va, illusion comique, le titre de cette exposition, c'est une pièce de Corneille, une pièce de non pas tant la fin de sa vie, mais disons une dernière comédie avant qu'il écrive des tragédies. Donc il y a quand même un, comment appeler ça, c'est le terme anglais qui me vient à la bouche, un background, il y a quand même quelque chose de il y a quand même
un
nourrissement, voilà, un fond une nutrition qui se fait par la littérature.
La littérature, le cinéma,
les artistes, les plasticiens, alors lesquels? Peut-être lesquels, des maîtres,
des références, des modèles,
des dada.
À travers
artistes.
Le temps, tu veux dire, parce que pas.
Ah oui, pas forcément contemporain.
Oui, je sais pas, j'en ai eu tellement.
Quand on pense à un dessinateur.
Caravage.
Je pensais à Vinci, ça précède un peu, c'est ça? Oui. Quelques années.
J'aime beaucoup Caravage, j'aime beaucoup.
Mais Caravage, peut-on le qualifier de dessinateur?
Fragonard.
Caravage,
parce que Caravage, non, c'est un vrai peintre. Caravage, c'est pas tant un dessinateur, lui, au contraire, non. Il travaille la peinture elle-même directement, il dessine assez peu, Caravage. Il n'y a pas de dessin de Caravage, c'est vraiment.
Alors que le travail de Jess est vraiment basé
sur
le dessin.
Alors que moi, c'est le dessin.
Quand on évoque Fragonard, Fragonard, il y a des.
Fragonard, c'est un peu plus dessiné, mais enfin, le grand dessinateur, par exemple, du 19e, c'est Ingres.
Oui.
Ça, c'est un vrai dessinateur, c'est pas tant un peintre, il joue pas vraiment, c'est pas comme Delacroix ou comme qui joue avec les couleurs, avec une façon de faire, une patte et tout ça. Ingres, c'est le dessinateur par excellence, quoi. C'est celui qui compose.
Tout peut se dessiner, même la fumée, disait-il.
Moi, ce qui compte dans mon travail, c'est beaucoup la composition.
Alors oui, le dessin, un travail de hachure, assez classique qu'utilisaient les graveurs comme Dürer ou d'autres.
Voilà, c'est du hachuré,
Du
quadrillé, je repasse classique. Sans cesse jusqu'à faire l'image, quoi.
Et l'image, elle est complètement destroy. Voilà, qu'est-ce qui est intéressant, il y a une tension entre une dimension classique, vraiment en termes de technique de hachurage, qui nous vient justement, de la Renaissance, de manière, une facture très classique, aussi lobby hachuré. Mais par contre, alors là, c'est là où ça devient très intéressant, il y a une tension, parce que l'univers représenté, on y reviendra bien sûr, il est très spécial, il est sulfureux, il est burlesque peut-être, il est grinçant, il est
un peu ironique,
théâtral, ironique, monstrueux parfois, dégingandé, démorcelé. On peut penser aux poupées de belle-mère, on pense à plein d'artistes en fait, qui ont un univers, d'où l'idée du cabaret, parce que... Il y a cette ambiance de cabaret.
Oui, il y a ça.
Sulfureuse, un peu décadente.
Voilà, décadente, oui,
sur les rapports humains.
Oui, aussi, l'amour. Des fois, l'identité sexuelle, les personnages ne sont pas très définis, on ne sait pas trop si c'est homme ou femme, il y a ça, il y a beaucoup de maquillage, il y a beaucoup d'effets de costume. De masques, voilà.
Une attention aux escarpins, aux chaussures, aux banilons, aux loups.
C'est ce qu'on avait vu sur Molinier aussi. Oui,
Pierre Molinier aussi.
Il y avait de ça sur... Oui, le masque, le masque, ça dit sur l'homme, quoi. Le masque, c'est important dans la société, le masque. On a tous des masques, on a tous une façon de se présenter, quoi.
Y a-t-il une forme de critique sociale? Je m'apprêtais justement à faire cela. Incroyable, Gérald, nous sommes une connivence qui confine à la préparation de l'émission, on dirait. Théâtre des illusions comiques et autres fatigues burlesques, c'est donc le titre de cette exposition. Et oui, je lis seulement les premières lignes parce qu'après il y a un texte qui développe davantage. On entre plus précisément dans la chose avec les termes de Lola, du loup et puis justement cette phrase « Each man kills the thing he loves ». Tout d'abord, il y a un petit texte introductif. Lorsque le chaos du monde se calcifie chaque jour un peu plus, seul le théâtre peut encore nous aider à penser, rêver, nous échapper à l'ordre imposé d'apparent cartésianisme et d'obsession économique. Caresser l'inaccessible devient le projet de tous nos désirs, créer, surprendre, obliger la vie à nous obliger. Et l'élégance devient alors réellement une pause profonde comme sa surface. Intéressant, une sorte d'oxymore, une profondeur pour une surface.
C'est la peau, oui. C'est ça, Paul Valéry.
Moi, je suis sensible au terme d'élégance, car je me fais fort. Enfin, non, bref, n'importe quoi. L'élégance, oui, on peut. Pourquoi ce terme ici dans cette introduction, l'élégance? Qu'est-ce que c'est, l'élégance morale, l'élégance vestimentaire,
L'élégance, oui, c'est la distance qu'on met entre les choses et nous pour qu'elles ne nous blessent pas trop ou qu'elles soient.
Forme de politesse ou alors comment appeler ça?
Ouais, et puis aussi d'accepter le monde à travers ce. Les propositions qu'on en donne, c'est de pas de pas juger, de pas accepter le monde qu'on nous donne comme réel ou comme ne jamais accepter ça, quoi, de fait. Faut toujours le monde, c'est une représentation aussi qui va de soi vers les autres. Il n'y a pas de raison ça vienne toujours de l'extérieur, quoi. C'est ça que je trouve important. Et la surface, c'est la philosophie aussi des punks. C'est la surface fait le fond. La surface et la forme, c'est la même. C'est les corps, c'est l'arbre, c'est tout un, quoi. Il y a pas, enfin, moi, je suis athée, je crois pas en Dieu, j'ai pas du tout de, comment?
L'arrière-monde.
Ah mais c'est très bien, de toute façon sur Radio Canu nous ne recevons que des personnes athées, il faut faire profession de foi d'athéisme en entrant, en pénétrant dans les locaux.
C'est une bonne chose au sens où, enfin ça peut être positif dans le sens où c'est vraiment, il faut accepter qu'on a une vie, qu'il faut la remplir, il faut qu'elle soit pleine, il faut qu'elle soit belle, il faut qu'on la, voilà, faut qu'on l'enrichisse. Faut qu'on...
En même temps j'imagine Val, une de vos œuvres au Vatican.
Non,
la collection du Vatican.
Il y a peu de chance, je crois. Ah, j'ai fait un Christ quand même dans la première exposition de chez Dittinger, un très grand Christ avec. Mais il y avait Adam et Ève en bas, quand même.
Ça allait. Alors.
C'était. Ouais.
Alors, serait-il temps d'entendre Klaus Nomi chanter cette Call de Sang? Oui. Et puis après, nous reprendrons donc peut-être encore plus précisément sur ce qu'était cette exposition, et puis peut-être également aussi d'autres expositions au passé, puis à venir. Ouvrons-nous vers l'infini, vers le futur. Klaus Nomi avec la Call Song, et puis nous poursuivons. Radio Canu, 14h30 et quelques minutes. L'émission spectaculaire, radiocanu.org, si vous nous écoutez sur Internet. Vous pouvez podcaster, enregistrer, télécharger les émissions. Ou bien Radio Canu 102.2 de la bande FM, si vous nous écoutez tout simplement à Lyon. Et vous avez bien raison. Alors non, je fais une erreur. Attention, je souhaitais bien lancer Klaus Nomi. Ce n'est pas Klaus Nomi. Voilà, là, ça devrait bien être. Attention, c'est assez marquant comme chanson quand même. Il y a quelque chose qui peut se produire. Klaus Nomi avec la Cold Song. Ce qu'il chantait à l'instant, je pourrais tout lire, mais plutôt seulement les dernières paroles. Let me, c'est répété. Let me, encore une fois. Let me, à nouveau. Freeze again. Let me freeze again to death. Jess a l'air d'être beaucoup plus au courant que moi de ce moment de l'opéra de Purcell. Qui est, c'est quel opéra
c'est
déjà?
C'est la mort, c'est le roi Arthur. C'est ça.
King Arthur, oui, très possible.
C'est la mort. Mmh. En fait, il refroidit. Laissez-moi me refroidir, quoi, jusqu'à la mort.
Jusqu'à en mourir. C'est peut-être terrible, je ne sais pas si Gérald me condamnerait. Moi, j'extrais ce titre d'une compilation des Arts Incorruptibles. Néanmoins, les propos qu'il tient me semblent intéressants. Adaptation glaciale et kitsch d'un thème de Purcell, Cold Song sera un tube insolite en 1982. Jess était très sensible à l'usage des synthétiseurs tout à fait caractéristiques des années 80.
Ça vieillit mal parfois.
Klaus Nomi, un contre-ténor allemand devenu avec son look extravagant héros de la communauté gay new-yorkaise, se spécialisera ainsi dans les reprises synthétiques et grandiloquentes de thèmes classiques ou d'incunables pop et disco, avant d'être l'une des premières victimes connues du sida en 1983. Donc c'est assez terrible cette chanson. C'est pour lui, en plus, chantée en 82, c'est...
Ça synthétise vraiment une époque, à lui tout seul, il synthétise une époque. Hein. Mmh. Une volonté aussi d'emmener l'opéra ailleurs, parce que sa formation, elle est classique. Ils connaissaient Nina Hagen et tout ça, ils ont travaillé ensemble.
Ah, 99 Luftballons, voilà. Il faudrait écouter ça aussi, très bien. 99 Luftballons.
Voilà. Arrivé aux États-Unis, la découverte du milieu gay, enfin tout. Lui, il synthétise à lui tout seul vraiment ce début des années 80, je trouve vraiment tout à fait...
Et donc, nous avons écouté un extrait de cette compilation des Arts Incorruptibles. On aurait plutôt pu entendre un album lui-même, c'est ça, Jess, je crois. Je ne l'ai plus entre les mains, c'est plutôt... Bref, oui, il doit être quelque part, il était question d'écouter un autre album.
Il a fait
album,
deux albums, en fait. Il existe deux albums, je crois, de Klaus Nomi. C'est tout.
Et donc, alors, un artiste que vous souhaitiez, Gérald et Jess... écouter parce que lié un petit peu par
avec le bah moi oui toujours enfin, c'est-à-dire oui il y a toujours ce côté cabaret lui aussi par exemple il crée ses costumes, ses maquillages, tout ça, c'est une espèce de type très autoritaire et très bizarre. Et puis il a détourné l'opéra, il en fait une chose comme on a vu, à la fois mode, branché, kitsch. Il utilise tous les codes, en fait. Moi, j'aime bien cette notion de utiliser des codes pour les dénaturer, les emmener ailleurs. C'est comme ça qu'on construit des mondes. C'est comme ça qu'on avance, en fait, plus doucement. Parce que souvent, l'art, on a l'impression que ça avance par grosses fractures, mais en fait, j'ai l'impression, moi, que les artistes, au contraire, les plus intéressants, c'est ceux qui vont fracturer par endroits, quoi, par petits morceaux, utiliser des codes classiques ou des codes conventionnels pour les emmener ailleurs et ainsi de suite. Et on n'avance pas à pas, quoi, oui, il me semble.
Est-ce que nous étions en train de brosser une sorte de portrait, ou est-ce que nous étions en train de définir ce qu'a été l'exposition Les Illusions Comiques qui s'est tenue à la galerie d'Ettinger, c'était sur la place Gailleton, cela s'est achevé le 7 juin. Oui, moi, il me semble, hein, c'est ces termes de monde, de insolite, kitsch, non? Quels étaient encore les termes que Jess a employés?
C'est ça, ouais. Le kitsch et tout.
Je pense qu'il y a des gens qui peuvent trouver votre travail kitsch, d'ailleurs. Et à qui ça peut ne pas plaire du tout, en fait.
Le côté, voilà, c'est le côté un peu grimaçant, voilà. Parfois. Les enfants tueurs, par exemple, que j'ai fait là. Ouais. Trois enfants tueurs avec des masques et tout ça. Et c'est vraiment des bébés, têtes. Mais qui portent des grosses têtes, voilà. Et puis, ils portent toujours une arme. Donc, un coup, c'est un fusil, un couteau, l'autre, c'est. Voilà. Et ils tuent leur. Ce qu'on appelle en psy l'objet transitionnel, ils tuent leur petit lapin, leur petit jouet, quoi, voilà.
On sait bien que tous les enfants adorent casser leurs
jouets.
Voilà,
mais on tue tous notre enfance, parce que si on tue pas notre enfance, on n'est jamais adulte, mais c'est ça qui est compliqué.
Attention, alors, pourrions-nous qualifier ces œuvres de formellement, de tout à fait, de très figuratives?
Oui, je pense. C'est très figuratif, et avec un répertoire de formes qui reviennent, comme une banque de données dans laquelle il puise,
c'est-à-dire
régulièrement un vocabulaire, dadas ou des obsessions, des fétiches, pourrait-on dire, peut-être.
Comment les qualifier?
Le costard à carreaux, la cravate, le masque, l'escarpin,
voilà,
noué
talons,
de...
Il
n'y a pas de corset trop, quand même. Hein.
Pas trop, de corset, mais par contre, il y a beaucoup de jartels, mais c'est des talons aiguilles, mais c'est des armes aussi, ces talons aiguilles. Ils sont toujours en train de piquer quelque chose, ou... Oui, oui, c'est ça.
Et alors, enfin, beaucoup de formes dans l'arrière-plan, c'est cela, parce que là, j'ai quelques-unes de ces œuvres sous les yeux et on voit effectivement les personnages au premier plan avec quelques couleurs. Ah, si, c'est intéressant. On dirait qu'une étoile jaune est portée par l'un des personnages, alors que non, c'est du orange, c'est ça qui a été
voilà,
un peu rehaussé.
Voilà, absolument.
Et alors, en fond, donc je sais pas comment nommer cela. Là, j'aperçois plusieurs damiers, mais des damiers avec une sorte de relief.
Oui, ça, c'est dans tous les dessins, en fait, qui étaient là à la dernière exposition.
Ah oui,
j'ai beaucoup travaillé sur les rayures et les damiers, en fait.
Les rayures du diable.
Ça me fait un fond. La rayure, oui, c'est ce que j'expliquais l'autre fois. C'est vrai que traditionnellement, la rayure, ça évoque une espèce de violence et des périodes de transition, mais surtout une espèce de folie, en fait, les rayures.
C'était Michel Pastoureau parle de la rayure. Voilà. Il a fait un livre là-dessus sur les rayures du diable, d'ailleurs.
Grand historien des couleurs ou des formes.
Des couleurs. De l'héraldique, spécialiste de l'héraldique. Voilà. D'ailleurs, il y a un rapport au blason dans le travail de Jess qui est étrange. Et ce sont des œuvres qui s'interprètent avec du temps, en fait. Elles ont émergé dans le temps. Et je pense que pour essayer d'accéder à leur sens qui est multiple, parce qu'on ne peut que l'interpréter, puisque c'est très personnel, c'est un univers vraiment singulier dans ce sens-là, personnel, qui va creuser dans l'enfance ou dans des obsessions très personnelles. Et je pense qu'il faut vraiment du temps pour essayer d'interpréter, de voir ce qui se passe. On circule, c'est très composé souvent, et on circule à l'intérieur. Mais on n'accède pas forcément au sens profond.
Pas directement.
Voilà, de toute façon. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc qu'on regarde en deux minutes et puis on passe à autre chose.
Voilà.
Si on commence à creuser, à se balader à l'intérieur des œuvres, c'est fait pour ça, c'est souvent très bien composé, très rigoureux dans la composition. Des polyptiques, comme il disait tout à l'heure, 4 fois 75, 110. Et des compositions très élaborées qui nous font tournoyer. Et on essaie de récupérer des bouts de corps. Il y a un corps qui passe là. On s'attendrait à voir de l'autre côté le bout du corps d'un personnage en costard-cravate, mais on s'aperçoit que le bas du corps est tourné de l'autre côté,
voilà,
donc ça colle pas.
Oui, c'est ça, voilà.
Et puis il y a un loup.
Ça crée un troisième personnage, un autre encore.
Voilà, qui est caché. Ça. Et un loup qui va indiquer une diagonale et qui va rassembler tous ces fragments. On oscille toujours entre une fragmentation étrange et presque angoissante et quand même une unité.
Mais c'est que. Ouais, voilà. Moi, il me semble que la figuration, elle est utile parce qu'elle est séduisante, la figuration. Mais en fait, elle traduit des choses qui sont très différentes, qui sont plus larges que ça. Mmh. Je fais pas des portraits, je fais pas des choses comme ça. Mmh. C'est chaque figure a son sens, mais parfois il y a une espèce de métaphysique sur les choses, dans les dessins, Mais c'est vrai, ça se lit pas du premier coup d'œil. Du premier coup d'œil, on est saisi par l'image ou par la dimension ou le machin, mais après, c'est vrai.
Oui, le premier coup d'œil peut être trompeur. Moi, je pensais un petit peu à des cartes de tarot et en fait, non.
Il y a des influences,
quelques dessins sont réversibles.
Avec cette idée de réversibilité.
Il y a une dimension carnavalesque, on est aussi proche de Bruegel.
Ça serait proche du tarot au sens du tarot, par exemple, de Marseille, où il y a les personnages qui symbolisent d'autres choses.
Oui,
en fait.
Voilà.
Ce sont des cartes qui sont à révéler ou qui vont révéler des choses, quoi, c'est ça.
Peut-être que la suite du texte que je lisais tout à l'heure, les premières lignes sont, je crois, introductives pour ce qui est d'une thématique. Il me semble que les lignes suivantes sont bien plus précises. Peut-être donne-t-elle une clé sans être non plus tout à fait lumineuse, parce qu'elle indique, je l'avais annoncé, elles indiquent des noms, des prénoms, Lola, le loup. Donc je lis ces quelques lignes et puis je vois que Régis a... Gérald a également, t'es Régis, d'où ce terme. Bonjour Régis, je vois que Gérald, je sais pas, il a un livre dans les mains.
Ça fait plaisir.
Il a un livre dans les mains, Carnaval, oui ben pourquoi pas. Donc moi je lis ces quelques lignes. Lola n'en finit pas de chanter sa mélopée de gouailleuse des trottoirs. Oui, voilà peut-être pourquoi la programmation en début d'émission de l'Autolania avec Indiquez-moi le chemin pour un bar à whisky, Drei Groschen Oper, l'opéra de Ketsu. Donc une mélopée gouailleuse des trottoirs, et ce n'est sans doute pas elle qui a peur du loup. C'est un conte cruel et pourtant réel qu'on entrevoit comme le dessin d'un grand tout, mais attention, dessin écrit avec un E, donc une volonté. La nef dans laquelle une Albertine, personnage proustien, pourrait vieillir, et où même si each man kills the thing he loves, cela n'entraînerait que des délits mineurs. Dans cette métaflorale aventure, sorcières et hommes corbeaux pourraient se réunir pour une grande et nocturne métamorphose, ou même une fragile Odette, un autre personnage proustien, pourrait porter le sceptre Toussaint d'Épines. Toussaint d'Épines, c'est intéressant ce qu'on peut entendre à la lecture, une Toussaint d'Épines, enfin, Quel sens
des Pines, ouais.
Oui, moi je pensais à Toussaint.
La Toussaint.
Cette fête qui précède celle des défunts, celle des morts. Mmh. Donc bref, hein, vraiment, c'est un voyage, hein, ces œuvres. Zut, je me dis, j'ai manqué. Je sais, Gérald, que tu m'avais bien indiqué. Oui, file donc sur cette place Gailleton. J'ai manqué cela.
Un voyage carnavalesque.
Sinon, on peut se rendre au domicile de Jess pour admirer ces œuvres-là, qui peuvent être encore, on peut encore les acquérir. Oui, c'est possible.
Ah oui,
je mettrai une adresse électronique si on souhaite les obtenir.
Puis,
ces grandes toiles de 1 mètre, un peu plus d'un mètre sur 75 cm. Gérald, donc un passage sur le carnaval
il existe un découverte Gallimard que je recommande aux éditeurs passionnants qui s'appelle Carnaval ou la fête à l'envers. Et j'ai trouvé beaucoup d'illustrations et de textes, toute l'histoire du carnaval en fait. Donc le carnaval, historiquement, c'est un renversement des rôles. Et on a cette dimension de renversement, d'ambiguïté de genre aussi dans les personnages qui se raccroche à la tradition du carnaval.
Oui, tout à fait. Il y a les masques, t'as vu, il y a des accessoires en fait. C'est ce qu'on met pour les carnavals, par exemple dans le Nord, on met quelques accessoires, on met rarement tout. Les costumes c'est tout mélangé, c'est tout. Moi j'aime bien ça.
Alors est-ce qu'il y a une dimension, cathartique, thérapeutique, ergothérapeutique.
Thérapeutique, personnel. Ça serait pour moi.
Voilà, justement, autothérapeutique.
Autothérapeutique, j'espère pas pour les autres, mais oui, pour moi sans doute, hein, c'est une nécessité, le dessin, c'est un peu comme ça, c'est une obligation.
Et vous dessinez tous les jours?
Tous les jours, oui.
Tous les jours, vraiment tous les jours.
Ah oui.
Ça se passe pas une journée
Non, j'essaye. J'essaye que non. Ça arrive parfois.
Oui, bien sûr.
Le temps de l'exposition, monter, j'ai eu besoin de faire des cadres et des trucs comme ça, mais sinon, c'est tous les jours, oui.
J'ai perdu son nom, je ne sais plus si c'est Juvenal, Sénèque ou quelques auteurs latins que ce soit, qui disaient nulla dies sine linea. Pas un jour sans écrire, mais là, pareil, ça marcherait également en français si on traduit peut-être mot à mot. Pas un jour sans une ligne. Pas forcément une ligne dans un cahier, une ligne d'écriture, cela peut être une ligne, une arabesque, une forme,
dessin. De toute façon, c'est pas un hasard si je fais au stylo, c'est aussi ça, c'est une forme d'écriture.
Hein. Pour le faire tout le temps,
oui,
certes,
bien sûr.
Également une forme d'écriture, oui. Quel est le message? Je vous propose, auditeurs, un dernier temps de conversation avec notre invité Jess Erdeven, qui est plutôt, c'est intéressant sur internet, c'est plutôt donné Erdeven Jess, c'est ça?
Erdeven Jess, en principe, ça marche comme ça.
Dans ce sens-là. Avant d'aborder ce dernier moment de conversation, écoutons encore un titre à coloration allemande après Klaus Nomi, qui est allemand mais qui chantait en anglais à l'instant. Lotelenia chantait, je crois, également en anglais. Et bien là, a priori, cela devrait être en allemand. Wieder im Gefängnis avec Marianne Faithfull. C'est sans arrêt. Donc là, Marianne Faithfull, elle chante en anglais ou en allemand, cette chanteuse
allemand
anglaise
encore.
Elle chante en allemand. Donc tout à l'heure, c'était Lotelenia, une Allemande qui chantait en anglais.
Vous l'auriez pas remarqué.
Là, c'est une Anglaise qui chante en allemand. Très bien, écoutons Marianne Faithfull. Cet extrait de l'album Les Voix,
Dixas.
Oui, c'est intéressant ce terme qu'on a prononcé tout à l'heure. Renversement, les œuvres sont également renversement. Nous écoutons, et puis il sera temps d'arriver à la fin d'émission. Blues des Canus ensuite. Pascal n'est pas encore là, alors prenons nos aises et poursuivons Marianne Faithfull. Et puis nous continuons.
Die Sonne scheint nicht mehr für mich auf der Pritsche, verdammt auf der Pritsche. Und draußen gehen frei spazieren die Dummen und ihre Dirnen, verdammt, verdammt, verdammt. Die Zeiten sind besser geworden. Wir haben alle Hurra geschrien, die Freiheit, verdammt, die Freiheit. Ein Wagen war gestopft und ich wie eine Hure mit einem Hamburger auf den Schienen, verdammt, auf den Schienen. So da geh ich in ein Geschäft, kommt ein Bürger, Milizsoldat, auf mich zu und sagt, du bist mal wieder dran, du bist mal wieder dran, verdammt wieder dran. Und aufs Neue geht vor mir die Wache auf und ab die ganze Nacht mit dem Gewehr, verdammt mit dem dumm war ich nur, hab eine gestohlene Jacke getragen und Schuhe, verdammt, und Schuhe. Kartoffelschälen habe ich verweigert. Albträume, verdammt, Albträume. Verstehst du? Albträume.
Oui, alors attention Gérald, Marianne Faithfull nous lançait « Verstehst du ?» D'ailleurs elle nous tutoie « Comprends-tu ?» Mais je ne sais pas très bien tout ce qu'elle a pu chanter par ailleurs. « Wieder im Gefängnis », elle évoque un prisonnier.
Oui, puis, enfin bref, c'était une chanson très très glauque.
Bon, nous indiquerons les renseignements sur le blog. Nous indiquerons également sur le blog des coordonnées pour Jess si vous souhaitez le joindre. Il y a un courrier électronique jess@wanadoo.fr. Je mettrai cela sur le blog ainsi que peut-être quelques illustrations. Enfin, j'appelle ces illustrations quelques dessins, quelques œuvres pour donner peut-être une idée, mais surtout chercher à les acquérir, auditeurs, éventuellement, je sais pas, marchander, bref, tenter d'obtenir.
Il n'y a pas des formats monumentaux d'ailleurs.
Oui, il y a des choses peut-être plus petites,
différentes séries. Enfin, moins, et, oui.
Nous sommes donc toujours avec Jess qui va nous indiquer que dans 2 ans il fera une nouvelle exposition. Alors qu'est-ce que je raconte? C'est que Alain Détinger, donc là, qui tient cette galerie sur la place Gailleton, est un fidèle de Jess, ou disons plutôt Jess est un fidèle.
Oui, c'est moi qui ai la chance de rencontrer Alain Détinger.
Et donc votre travail est un travail, nous l'avons, je pense, beaucoup dit dans cette émission, un travail qui se fait sur une longueur, sur du temps. Et là, l'exposition précédente, Les Illusions Comics, est achevée le 7 juin et la prochaine ne serait pas pour tout de suite. D'ici, voilà, ça on serait, se donnait ce laps
oui,
de
oui,
temps,
voilà,
un an, deux ans
temps
peut-être.
De fabriquer ouais.
D'autres œuvres. Donc
donc en principe, plutôt dans 2 ans, une nouvelle exposition à la galerie Détinger.
Mais en attendant, vous pouvez peut-être vous rendre sur Internet. Il y a une vidéo sur cette exposition.
Voilà, sur le vernissage. Voilà,
qui s'est terminé.
C'est Christine Goyard qui fait ça sur Only Art Lyon.
D'accord.
Et j'en mettrai le lien.
Certains vernissages et tout ça qu'elle met en ligne. Oui, et c'est super.
C'est assez court. Ça dure une minute, je crois. Et Gérald, donc une dernière citation, peut-être, ou je ne sais, parce que nous arrivons tout de même au thème de l'émission.
On va prendre la théorie des humeurs.
Hein. Oh mon Dieu,
donc,
14h58.
Une citation de Fuseli, les aphorismes principalement relatifs aux beaux-arts. On aurait pu parler de Blake. Ouais. Jess adore William Blake. Johann Heinrich Fuseli, ce peintre dont beaucoup de gens connaissent le fameux cauchemar avec cette femme retournée, le cheval blanc qui apparaît, ses succubes. Bon, et il écrit l'aphorisme 9, l'homme ardent met son sujet dans les flammes et en chevauche les vapeurs. Pour trouver le sien, le mélancolique fend le roc ou tâtonne parmi les ronces. Le sanguin les inonde tous et n'en saisit aucun. Le phlegmatique en tête un et s'endort repu. Donc Jess.
Ah, moi, mélancolique, oui.
En bon mélancolique, il fend le roc et tâtonne parmi les ronces.
Parmi les ronces. Les ronces, ça me va très bien.
Pendant 2 ans. Donc, à la prochaine exposition. On a hâte de voir ça.
Voilà, bah, très bien. Ben, merci.
Il nous reste peut-être un dernier titre. On écoute.
Ouais, le début. Et puis surtout, précipitez-vous dimanche 22 pour aller voir la dernière représentation de l'opéra de Verdi,
Boccanegra,
à laquelle j'ai assisté. Et c'était vraiment très bien.
Alors attention, horaire le dimanche, ce n'est pas comme en soirée.
16h l'après-midi. Et c'est un opéra politique de 1881. Un chef d'orchestre magnifique de 30 ans, Daniele Rustioni, une mise en scène très intéressante, des costumes aussi justement modernisés, décor très bien, la partition est très enlevée, très syncopée. Bon, malheureusement, je vais pas dire malheureusement, parce qu'en plus j'étais invité, mais j'étais dans le parterre, j'étais un petit peu frustré, parce que j'aime bien voir la musique se faire en direct. Et quand on peut voir la musique se faire.
Ah là là, Gérald fait la gueule, pourquoi tu sais ça?
Les chanteurs étaient très bien aussi.
Écoutons le terrible enfant à gueule de chien, et puis ensuite il sera temps d'entendre peut-être
Vous pouvez commencer le péristyle avec le jazz.
Ah oui,
avec
c'est
toutes
vrai.
Toutes les dates de jazz,
si on se rend à l'opéra.
Gratuit.
Mais pour l'instant, on écoute ce terrible enfant, c'est ça?
Voilà, pour finir un peu dans l'ambiance grimaçante de jazz.
Il n'y a pas le temps d'en écouter davantage, à la fois le générique et puis ce titre du cirque des mirages de Parker et Yanowski. Voilà, nous étions dans l'émission spectaculaire 37e qui s'achève, 15h, le blues des canuts ne commence pas, mais tout de même, laissons le créneau horaire suivant, il y a les bandes continues qui continuent elles-mêmes et puis il y a plein de choses. L'opéra est à venir, Jess est à contacter sur son adresse électronique de Wanadoo, peut-être que je mettrai le numéro de mobile si vous souhaitez sur le blog, donc rendez-vous sur le blog pour voir la chose. Spectaculaire, rendez-vous la semaine prochaine, rendez-vous la semaine suivante. Et puis après, on fera relâche l'été prochain. La semaine prochaine, le chef d'orchestre du concert de l'Hôtel Dieu, Franck-Emmanuel Comte, pour parler de nouvelles saisons à venir et puis de quelques concerts. Et d'ailleurs, il y a des concerts d'ici la semaine prochaine. Rendez-vous sur le blog pour voir tout cela. En attendant, bonne écoute des programmes.
Au revoir.
Au revoir tout le monde et merci. Au revoir, salut. Merci.